Et bonjour, bienvenue sur Radio FM Plus 91 FM à Montpellier pour votre émission 3, Scénorama spécial Printemps des comédiens. Et nous sommes toujours au Domaine d'Eau. Alors, beaucoup de spectacles à voir pour ce quatrième week-end, que des compagnies françaises. Et mon souhait étant de les mettre en avant, eh bien, pour cette émission, je vais recevoir Maglone Vidal pour son spectacle immersif très attendu, La Tentation des Pieuvres, à voir à la Bulle Bleue ce samedi et dimanche à 13h ainsi qu'à 20h30. Oui, ce sont des horaires de repas, mais vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Sébastien Le Guen nous invitera à entrer dans l'enquête, un spectacle de corps et d'objets. C'est ce mercredi à 19h, samedi à 17h, plus 20h30, ainsi que dimanche à 17h. Ça sera au Théâtre d'Eau. Donc, arrivez en avance, le temps de traverser le domaine et de profiter du parc. Et le Domaine d'Eau, eh bien, c'est aussi la fête de la musique organisée en partenariat avec le Printemps des comédiens. Et donc, ce sera ce mardi 21, bien sûr. Philippe Morizzi est à mes côtés et il va tout nous dire sur cette programmation énorme qu'il a concoctée. Bonjour Philippe.
Bonjour Annick.
Alors, ce moment incontournable réunit chaque année plusieurs milliers de mélomanes. Philippe, d'où vient que la fête de la musique dans le Domaine d'Eau n'est pas la même que sur les trottoirs de la ville et ne sera pas la même non plus que dans les jardins du Pérou, là, avec la télé et tout et tout?
Je te laisse libre de tes commentaires. Mais non, en effet, je pense que historiquement, le parc a su garder la fête de la musique originelle, cette ambiance, c'est-à-dire qu'on a un public qui est curieux, qui est à l'écoute des propositions. Alors, on a un public familial, mais qui est très nombreux. Pas de critique particulière, mais c'est pas une beuverie. Les gens viennent, c'est un divertissement, mais je crois qu'il y a une vraie curiosité sur les propositions musicales. Et c'est tout l'intérêt. Ça veut dire qu'on peut, comme tu le disais, voilà, concocter un programme, véritablement. Et on sent qu'il y a un intérêt, il y a un feedback du public, ça c'est super. Donc c'est une effervescence très particulière. Alors évidemment, le domaine, il fait pour beaucoup aussi, hein, cette ambiance. Donc l'idée, c'est de rythmer un peu les différentes ambiances du domaine, Pinède, le Sud, enfin tout ce que vous savez. On le déclinera, l'Olivret, voilà, d'animer en fonction avec des partis pris que nous avons fait. Voilà, donc ça donne l'occasion de déployer différents styles musicaux sur l'ensemble du domaine et d'inviter un certain nombre de formations. Et toujours, donc, notre idée, c'est de s'appuyer énormément sur le local quand même, hein. Et je le dis de façon enthousiaste, c'est-à-dire pas simplement les groupes, mais aussi de faire des passerelles avec des clubs, avec des festivals, avec des gens qui comptent à l'année dans la distribution des concerts de façon générale. Donc pour nous, c'est ce moment-là aussi, c'est de fédérer aussi tout ça, c'est d'avoir un panorama de ce qui peut se faire sur le local, mais un peu large, hein, c'est la métropole, mais on ne s'arrête évidemment pas aux frontières de la métropole. Mais c'est ce regard qui est intéressant, d'essayer de capter tant qu'on peut capter, parce que bon, on est entre 8 et 10 000 personnes, je crois, ici. Mais en tout cas, d'essayer de capter l'ensemble du panorama musical de l'année ou plus large, et de faire une part à l'international, comme tu le sais, c'est quelque chose qui nous tient, puisque ça faisait aussi partie du brief que personne ne nous impose, hein, on le fait volontiers, le brief originel, c'était aussi... Et parlons de l'Europe, ben voilà, donc notre idée, c'est aussi de l'évoquer à ce moment-là, l'Europe et même l'Angleterre.
Alors du coup, bah, puisque vous parlez de l'Europe, de l'Angleterre, quels sont les groupes programmés qui nous viennent justement de ces pays?
Alors, c'est l'occasion de vous... voilà. Il y avait Steam Down, auquel on tenait énormément, qui était programmé. Ils ont des soucis d'avion. Là, nous sommes la mort dans l'âme, obligés d'annuler leurs prestations. Là, donc... ils jouaient dans l'amphithéâtre à 20h30. Nous sommes en train de nous atteler à une formation qui pourrait les remplacer. Donc,
surtout dans l'amphi qui accueille voilà. Beaucoup de monde, plus de 1000 personnes.
Voilà, hein, ouais. Et l'amphi, c'est vrai que c'est un lieu un peu particulier. On l'a travaillé un peu différemment cette année. Hein, on structure un peu différemment. On avait coutume d'arrêter les autres scènes vers 22h. Cette année, on fait jouer un peu plus tard, de manière à... ce qui est un peu moins de gens frustrés, puisque la capacité comme vous le savez, de l'amphi, elle est de 1008. Et puis 1008, quand il y a 6000 personnes ou 7000, c'est vrai que ça fait beaucoup de gens qui restent à la porte. Et donc l'idée, c'est de pouvoir quand même, pas tout le monde verra Robin McKell en l'occurrence, mais bon, ils pourront investir le domaine et il y aura des propositions jusqu'à très tard.
Oui. Et alors, du coup, il y a le théâtre Jean-Claude Carrière aussi qui va être ouvert pour l'occasion. C'est une première.
Absolument. C'est pas une première.
Non.
On avait déjà accueilli.
L'année dernière aussi.
Oui. On avait déjà accueilli le chœur de l'opéra. Donc, c'est un grand plaisir. Il y avait d'autres partenariats qui auraient pu se faire. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de le matérialiser. Et c'est à 18h, donc c'est vraiment pour l'ouverture. Ce ne sera pas les seuls, hein, puisque bon, avec un domaine qui fait 23 hectares, on ne peut pas monopoliser entre guillemets, l'offre sur le Jean-Claude Carrière. Donc dès 18h, l'ensemble des lieux du domaine joueront en simultané.
Oui, et puis tout le monde n'est pas forcément fan des chœurs de l'opéra.
Voilà, ou de la scène rock.
Oui, même s'ils sont très bien.
Bien sûr.
Donc oui, on restons-en avec les groupes étrangers.
Eh bien donc c'est, là, on parle de l'amphithéâtre. Bon, c'est une coïncidence, hein, mais en l'occurrence, donc, il y avait Steam Down, donc ils ne viendront pas. Donc, encore une fois, on cherche un remplaçant. Et à 22h30, nous aurons Robin McKell qui viendra, que certains connaissent déjà, puisqu'elle a une grande carrière. C'est une Américaine qui a une grande carrière jazz et elle a eu une évolution de carrière en France assez notable. Donc, on l'a déjà accueillie il y a quelques années déjà, mais là, elle vient avec un répertoire Stax. Donc, c'est une revue soul Stax, hein, pour ceux qui ont oublié. C'est le label légendaire, entre autres, d'Otis Redding. Quoi, mais c'est un label qu'on écoute l'ensemble de ce qui a été réalisé par les productions Stax. C'est un studio à Memphis, un des grands studios de Memphis, Stax. Donc, ils viennent avec ce répertoire, donc avec des cuivres, c'est... Ça va être des cuivres très brillants, enfin voilà, comme en habitude, il y avait à l'époque des revues soul. C'est vraiment dans cet esprit-là. Oui. Donc elle est américaine, elle est très imprégnée de ça, et l'idée c'était de finir, en tout cas à l'amphi, sur quelque chose de très festif, qui soit fédérateur sur le public et de qualité. Et puis vraiment l'ensemble des instruments sont mis à contribution. Là, il y a des cuivres très riches, il y a des très belles mélodies vocales. Voilà.
Ouais, on va se régaler.
Oui.
Et alors, j'ai vu que c'était un spectacle qui avait été créé en 2014 pour Jazz à la Villette.
Exactement.
Et qui, du coup, continue à
c'était tourner. L'occasion de les solliciter. Il se trouve que les producteurs sont des gens avec lesquels nous travaillons depuis longtemps. Et voilà, et de rechercher un peu des spectacles qui aient une patte un peu originale, quoi, et d'offrir des choses qui, en effet, ont été créées auparavant, mais qui n'ont pas existé sur le territoire. Donc, voilà, c'est ça aussi la fête de la musique,
oui.
D'avoir ce petit côté exclusivité, en tout cas sur ce jour-là. Quoi.
Oui. Et alors, dans un tout autre style, je pense à les Get Rhythm Boys.
Get Rhythm Boys, oui.
Ouais. Alors, c'est un trio 100% rockabilly, personnellement, j'adore. Stéphane,
ouais,
aussi, mon cher technicien, je sais qu'il est fan.
Oui, Get Rhythm Boys, donc ils se produiront. Alors, on va se déployer, là. Nous étions sur la... Je dirais sur la Pinède, là. Nous avons parlé du Jean-Claude Carrière, donc 18h, ouverture avec les chœurs de l'opéra. L'amphithéâtre, donc qui démarre à 20h30 la programmation et qui se finit avec Robin McKell à 22h30 pour un spectacle qui va durer 1h30, voire plus, on verra. Après, on se déplace vers le sud, on prend l'allée Cavalière, on arrive à l'arrière du château. Et là, il y a une scène, en effet, où Get Rhythm Boys joueront. Et là, en effet, c'est du country, mais... Là aussi, dans une forme très originale, avec une formation qui est vraiment très, très bien sur scène aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est aussi de montrer des groupes. Alors, il y a des groupes auxquels on met le pied à l'étrier, entre guillemets, mais des groupes aussi qui sont des révélations par rapport à leur prestation scénique. C'est l'idée de la fête de la musique.
Bah, oui. Alors, ils sont basés où, eux ?
Il me semble que c'est plutôt région nîmoise.
D'accord. Ah ouais. Oui. On va écouter un extrait.
Thank you.
J'avais l'impression d'être sur un cheval et de trottiner au rythme de cette musique-là. C'est cool. Alors, on reste avec nos talents du territoire. Et je pense un très jeune trio bourré d'énergie, Lounz.
Oui, qui présenteront... c'est l'occasion aussi de présenter un album pour eux. Donc ça aussi, c'est une belle opportunité quand même de dire, voilà, on a le domaine d'eau, on a une capacité à faire de la communication que n'ont pas forcément... C'est vraiment l'idée de cette fête de la musique ici, hein, d'arriver à pouvoir offrir une palette que des groupes qui démarrent n'ont pas forcément. Et donc, voilà, de dire, mais à l'occasion aussi de la sortie de votre album, vous pourrez bénéficier du travail qui est fait sur la com. C'est pas un détail.
Oui,
c'est l'idée de ce point de vue-là, d'être présent quand même sur l'aide qu'on peut, enfin, qui est quelque chose d'invisible pour les gens, mais qui est une partie fondamentale dans les premiers pas d'une formation.
Bien sûr. Alors Philippe, quels sont vos coups de cœur? Après, je vous donnerai les miens.
Les coups de cœur?
Oui.
Ben, en fait, c'est une sélection qui a été rude déjà, donc on était à une centaine de formations pour arriver à ça.
Réfléchissez pas trop.
Ouais, non, j'ai pas de coup de cœur. Il y a plein de choses que j'ai envie de voir sur scène. Par exemple, les Roulettes Rousses, que je n'ai pas vu. Hein. J'ai beaucoup parlé avec les gens qui les représentent, mais je les ai pas vus. Donc ça aussi, c'est...
Donc à découvrir.
Voilà, hein. À découvrir. C'est les Roulettes Rousses, donc c'est un trio féminin, un quatuor, pardon, avec des reprises Bowie, Sonic Youth et tout, donc c'est un univers. J'ai vraiment envie d'avoir de voir à quoi ça ressemble sur scène, par exemple. Alors sur cette scène, donc à l'arrière du château, aussi dans cette ambiance qui est une ambiance d'émulation quand même. Voilà.
Il fait chaud. Oui. Alors moi, j'adore
le nom en plus.
Je vais vous en. Oui, c'est très. Oui, je l'aime beaucoup aussi, c'est très sympa. Et alors moi, je vais vous en donner un. C'est les Palava Surfers, le retour.
Oui.
Ça, c'est quand même, ça va être un gros moment, non?
Oui, c'est un gros moment. Bon, il se trouve que c'est des amis aussi, et bon, c'est des gens que je suis, que j'ai fait jouer par ailleurs. Et c'est une formation formidable. Alors là, qui emprunte à autant, alors pour parler local, au Shérif, mais aussi au Vampas, par exemple. Je préférais parler des Shérifs que des Vampas, mais aussi à des formations comme Brian Setzer, des choses comme ça. C'est de plus en plus riche. C'est vraiment une formation à ne pas louper.
Oui, oui, oui. Et alors, ils viennent avec un nouvel album. Hein.
Exactement.
Voilà.
Donc, qui est concocté en plus sur nos terres, là, à Saint-Jean-de-Védas. Ouais, c'est formidable parce que c'est un groupe qui a fait une première date parisienne, enfin pas une première, mais qui a fait une date parisienne aussi au printemps là, qui ont beaucoup de succès, de plus en plus le vent en poupe, qui jouent à l'étranger. Donc voilà, c'est aussi une occasion de les saluer.
Et on écoute sur Radio FM Plus. Oui, ça danse ici au Domaine d'Eau, sous ce magnifique chapiteau. Mes invités, mes nombreux auditeurs qui sont venus assister à l'émission. Enfin bon, voilà. Philippe Morizzi, donc vous êtes à la programmation de cette fête de la musique, en partenariat avec le Printemps des Comédiens, bien sûr. Alors, continuons. Alors, du coup, voilà, en accélérant les moments et les choses, les groupes à voir et les moments particuliers.
Il y a une originalité cette année, il y en a plusieurs, mais nous avons décidé de faire un parterre devant le château avec des one-man bands. donc hein, ces hommes orchestres pour faire une traduction. Et là, c'est assez. Il y aura vraiment trois dimensions différentes avec One Horse Band, qui est un Italien complètement cinglé. C'est super ce qu'il fait. Il y aura Jacob Wild, qui est un. Alors là, ça parle de plein de choses. On peut être aussi dans Thoreau, dans le théâtre. C'est un retour à la nature. C'est magnifique. Et Lord Sax, des impros, mais pas que aussi, et des reprises de jazz. Donc là, c'est vraiment un éventail de choses très différentes. Et c'est très curieux de voir ce qu'ils peuvent déployer, ce qu'une seule personne sur scène peut déployer, quoi. Comme talent, comme virtuosité.
Donc, très, voilà. Très bien.
Voilà. Et par ailleurs, nous avons cette année une originalité, c'est que sur la prairie, donc dans la partie sud, il y a un sound system qui s'appelle Imperial Mighty Sound qui sera présent avec des invités, du live, avec un sax aussi. Donc l'idée, c'est un sound system originalement, c'est une formation qui diffuse de la musique, mais aussi qui commente l'actualité, quoi. En Jamaïque, au départ, en tout cas, c'est ça. Donc c'est cette idée-là, c'est des gens qui sont quand même très militants, et aussi d'inviter des parties live. Pour moi, la partie DJ, c'est pas que c'est pas une partie live, mais aussi d'avoir des intervenants, hein, des toasters, des DJ, des choses comme ça.
J'adore,
ouais. Voilà.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est cette année quelque chose que nous avons déployé pour la première fois. Ce sera très intéressant, et c'est dans la partie sud, sur toute la prairie, quoi.
D'accord. Et puis bon, les fanfares.
Il y a les fanfares, évidemment. Ça, c'est toujours un gros moment. Là, il y a six formations qui vont tourner tout le temps pendant toute la fête de la musique sur l'ensemble du domaine. Donc, il y aura plein de surprises, des rencontres comme ça.
Alors, on va faire la transition avec notre deuxième invité, avec un extrait du groupe Loons. Qui s'intitule Cold Flames. Et je vais en profiter pour donner les informations pratiques. Donc, c'est entrée libre à partir de 18h. Petite restauration et bar via l'achat de tickets sur différents points de vente sur le site. Attention, couteaux et bouteilles en verre proscrits. Et puis, voilà quoi. Merci Philippe Morizzi.
Merci. Merci à vous. À très vite. Et au 21, donc.
Ah, bah oui. Ça balance fort sur Radio FM+, dans votre émission Scénorama sur Radio FM+, 91 FM. Alors, Sébastien Le Guen, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous recevoir, parce que ça faisait quelque temps que nous n'avions pas partagé de vos spectacles que j'ai vus, mais que je n'avais pas pu vous interviewer. Alors, vous êtes fil de feriste, spécialiste de l'équilibre et des suspensions. Vous êtes aussi auteur et metteur en scène de cirque. Vous avez fondé votre compagnie Lonely Circus en 1999. Depuis, une dizaine de spectacles ont été créés pour plus de 1000 représentations. Quand même.
C'est l'avantage du cirque. Le cirque a ce luxe de jouer beaucoup. C'est vrai.
Ah oui, oui, oui. En France, mais aussi à l'étranger.
Absolument, oui.
Quelle chance. Et à travers ces différents spectacles, j'aimerais bien que vous nous présentiez les grandes lignes de votre démarche artistique, qui est quand même assez particulière, on va dire.
Alors oui, moi, il faut plonger un peu dans les racines de tout ça. Moi, je viens de deux choses différentes. Je viens du sport, déjà, de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais plus jeune, et je viens du théâtre. Alors, c'est un mélange assez curieux, qui m'a permis pour moi de... Le cirque a été une évidence vers une vingtaine d'années. Donc, du coup, je suis venu au cirque par le théâtre et par le mouvement. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment on questionne le mouvement et quel sens on peut lui donner, et comment est-ce qu'on peut le projeter dans une dramaturgie, en fait, si on veut dire, pour dire ça de manière un peu théorique. Et du coup, c'est vraiment cet axe de travail sur lequel on est depuis des années, c'est questionner toujours le sens des choses, quoi. Non pas forcément pourquoi on fait les choses, mais qu'est-ce qu'elles peuvent évoquer, qu'est-ce qu'elles peuvent raconter. Alors, il y a des projets qui étaient plus abstraits, c'est-à-dire qu'ici, au printemps, on avait joué Folfelfalen, qui est vraiment...
Qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs.
Qui a eu beaucoup de succès, un duo avec le compositeur Jérôme Hoffmann, qui était vraiment une entrée un peu plus abstraite sur les choses. Là, ici, on est, la question, c'est le récit. Comment est-ce qu'on parle de quelque chose en mouvement et par le corps, quoi. C'est vraiment
l'idée. Alors justement, voilà l'enquête, votre nouvelle création 2020, un théâtre de corps et d'objets dont la genèse est quand même assez étonnante.
Assez étonnante. Alors moi je dis souvent que le spectacle m'est tombé du ciel, mais on peut le dire. Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un de très croyant ou très versé dans ce genre de choses, mais il s'avère qu'il m'est tombé du ciel. C'est-à-dire qu'on m'a légué des objets qui ont appartenu à un clown. Des années 50, en me disant à peu près ça, c'est-à-dire que j'ai eu un coup de fil très mystérieux de quelqu'un qui m'a proposé ce legs d'objets d'une dame qui partait en maison de retraite, la veuve du dit clown, et cette vieille dame qui avait 103 ans, vraiment sur ses derniers jours, voulait transmettre ses objets à quelqu'un pour qu'il en fasse quelque chose. Et l'injonction, c'était ça, pour qu'il en fasse quelque chose. Elle rêvait d'un clown, alors je ne suis pas clown, ou d'un artiste de cirque à la rigueur, donc j'ai été un artiste de cirque, et donc j'ai accepté ce legs et j'ai récupéré ces objets.
C'est quand même assez incroyable. Donc c'est Madame Bonvalet.
Madame Liliane Bonvalet.
Tout mais alors elle avait entendu parler de vous.
Ah, pas du tout. Alors c'est complètement rocambolesque. C'est-à-dire que c'est son mandataire judiciaire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin la personne qui s'occupait de ses affaires en quelque sorte, quoi, qui était un ami de mon oncle. Voilà, le frère de mon père, et qui m'avait vu dans un spectacle à Paris. Il lui a dit, mais toi, ton neveu, là, il n'est pas plus ou moins clown ou dans le genre. Et voilà. Et j'ai reçu ce coup de fil. Oui, vous qui êtes plus ou moins clown, pourriez peut-être récupérer ses affaires.
Ah oui, c'est fou, ça. Donc, Madame Bonvalet, veuve de Pierre Bonvalet, dit Punch.
Punch, ouais.
Punch. Qui était donc Punch et quelle a été sa carrière artistique?
Alors, il a une carrière artistique assez étrange, donc ce qui m'a tout de suite moins intéressé. Il a une dizaine d'années, il a été clown pendant à peu près 10 ans. C'est-à-dire qu'il a rencontré son partenaire dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque moi j'ai appris qu'il y avait des camps de prisonniers. Alors, c'est vraiment les soldats qui ont été prisonniers, donc c'est des gens qui étaient détenus en tant que militaires par les Allemands, mais dans des conditions un peu moins atroces que beaucoup d'autres gens. Et qui ont passé toute la guerre dans ces camps à beaucoup s'ennuyer et à notamment faire du spectacle, ce qui paraît fou, mais il y a tout un répertoire de théâtre et de musicals et de cabarets qui a été créé dans ces camps-là. Et en fait, ces deux clowns se sont rencontrés là, en fait. Ils ont, voilà, et sortis de la guerre, ils ont, de 1945 à 55, ils ont joué tous les deux dans des cirques. C'est vraiment des clowns de cirque traditionnels, ce qu'on appelle les clowns de reprise. Ce n'était pas des stars, des gens très connus, en fait, mais c'était vraiment des professionnels. Et puis, brusquement, en 55, séparation. On ne sait pas pourquoi, ça c'est une des questions que je me posais, et surtout disparition du partenaire dans des conditions assez mystérieuses. Autre question dont je n'ai toujours pas la réponse.
Ah, vous n'avez toujours pas la réponse.
Mais non, parce que alors, ce qui s'est passé de manière assez folle, c'est que donc, j'ai accepté ce legs. Je me suis aperçu qu'à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF, il y avait d'autres affaires ayant appartenu à Punch, déjà transférées par la veuve, que moi j'avais 10% du legs. Donc, comme si j'avais la clé qui vous permettait d'expliquer le reste de la donation. Et surtout, voilà. Et donc, du coup, moi, je n'avais qu'une hâte, c'était de rencontrer Madame Bonvalet. Donc, je suis parti à Paris, je suis allé à la BNF, j'ai pu accéder au fond. Je devais voir la dame le soir même, et elle est morte dans la journée, en fait. Et donc, toutes mes questions sont restées sans réponse. Et c'est aussi de ça dont parle le spectacle.
D'accord, mais alors, du coup, vous avez réussi, voilà, bah oui, l'enquête.
L'enquête, oui.
Vous avez réussi, du coup, à mener une enquête pour en savoir plus. Et quels étaient les objets qui vous ont été remis,
du coup ?
Alors,
moi, il m'a été remis, finalement, assez peu de choses. J'ai eu deux malles de maquillage. Donc, c'était un duo de clowns. Donc, d'après ce que j'ai compris, moi, j'avais la malle de maquillage de Punch et celle de Pedro, qui était son partenaire. Sa collection de livres de cirque, qui sont tous des livres dédicacés par les auteurs. Il y a un livre de Buster Keaton qui lui a été dédicacé. Enfin, il y a des choses assez précieuses comme ça. Et sa collection de vinyles.
Ah oui.
Voilà. Et c'est les objets qui sont d'ailleurs présentés dans le spectacle, qui sont là devant les yeux du public, en fait.
D'accord. Et alors, du coup, comment avez-vous travaillé sur quelle base?
Alors, au départ, il n'était même pas question de faire un spectacle, en fait. Très, très honnêtement, hein, moi, je me suis demandé quoi faire de tous ces objets. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, du coup, moi, j'ai pensé les léguer moi-même à... tout de suite à la BNF ou à une bibliothèque ou à des gens plus intéressés, des collectionneurs, je sais. Bon, voilà. Après, cette histoire m'a assez frappé, puis c'est mis en branle toute une chose de coïncidence, parce que je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que ces gens ont voulu absolument laisser une trace derrière eux, sachant que ça rejoignait des problématiques que j'ai moi-même sur quelles traces on laisse quand on est artiste de spectacle vivant, quand on n'est pas auteur de théâtre, on laisse un texte, par exemple, quand on fait du mouvement, qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on laisse comme souvenir d'un spectacle, quoi. Donc du coup, moi, je me suis mis à écrire, et ma manière d'écrire a toujours été le dessin, donc je me suis mis à dessiner. Donc j'ai fait une sorte de récit graphique, sorte de bande dessinée, d'une dizaine de pages. Et je me suis retrouvé avec ça au bout de 4-5 mois. Et c'est là que je suis allé voir le metteur en scène du spectacle, le co-metteur en scène avec moi, Nicolas Heredia. Et je lui ai dit, voilà Nicolas, il m'arrive cette histoire-là, j'ai écrit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et elle revenait à la question de cette dame, pour en faire quoi en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc du coup, à partir de là, on a commencé à travailler. Et le spectacle, c'est tout ça en fait. On a vraiment sous les yeux le processus de fabrication du spectacle, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans mon bureau en fait, d'une certaine manière, quoi.
D'accord. Et du coup, voilà, cette enquête est aussi une façon de mettre en abîme votre parcours professionnel. Ah, mais
complètement. C'est qu'il y a une oubli. En fait, dans ce spectacle, bon, il faut pas trop en révéler parce que voilà, non, faut pas spoiler comme toute bonne œuvre. Tout ça. Mais oui, il y a deux histoires dans l'une en fait. Certes, ce trajet, l'histoire de ce clown, mais il y a aussi ma propre histoire personnelle, forcément, qui résonne, qui a énormément résonné pour moi, quoi. Et c'est aussi de ça dont ça parle. Donc c'est un spectacle vraiment qui révèle quelque chose de l'ordre de l'intime aussi sur mon propre parcours. En fait.
Oui. Donc Nicolas Heredia à la mise en scène, vous l'avez cité. Ouais. On le salue. Il m'a envoyé un petit message juste avant l'émission en me disant je suis tellement désolé de ne pas pouvoir venir. Donc on l'excuse évidemment.
Bah, oui.
Et alors. Pour la création sonore aussi, voilà un artiste avec qui vous avez l'habitude de travailler,
Jérôme Hoffmann. Tout à fait, Jérôme Hoffmann, que les Montpelliérains connaissent aussi, absolument. Oui.
Alors je propose qu'on écoute un extrait, c'est le teaser de l'enquête, et on va découvrir donc ça sur Radio FM+. One shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment. Capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. Get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Alors un extrait musical que vous pourrez entendre dans l'enquête de Sébastien Le Guen. Sébastien, donc voilà, on a dit c'est le teaser, on a un petit peu du début, un petit peu de la fin. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là qu'on vient d'entendre?
Alors, ça révélait beaucoup du spectacle. Après, ce que je peux dire, pourquoi ce morceau, c'est que tout le travail d'écriture a vraiment été basé sur la coïncidence. En gros, quand on a souvent des événements de notre vie qui sont liés à des musiques très fortes, quoi. Quand j'ai reçu le coup de fil, j'étais en train d'écouter ce morceau précisément et de courir sur la plage. Et j'écoutais ça à fond dans mon casque. Il se trouve que ce morceau, j'y suis très attaché parce qu'il me rappelle une histoire assez triste que j'ai personnellement, qui est racontée dans le spectacle. Et donc, en fait, il se passe, voilà, c'est un peu la clé, la délivrance du spectacle, quoi. Et il y a aussi ce dont parle le morceau lui-même, parce que si on traduit les paroles, c'est comment se perdre et comment ne jamais lâcher l'affaire tout en se perdant. Et ça parle de ça, l'enquête.
Eh oui. Alors, attention, voilà, je tiens à préciser, il ne s'agit pas d'un spectacle hommage au cirque ou à l'esthétique foraine. On y retrouve votre patte tout à fait particulière de corps et d'objets.
Oui, absolument, même si l'esthétique foraine est évoquée, même si on a travaillé dessus quand même, malgré tout, oui, c'est un spectacle. Bon, nous, on dit théâtre de corps et d'objets, parce que je ne suis pas certain qu'on soit encore vraiment au cirque. Moi, je dirais du théâtre fabriqué par un circassien. Fait par un circassien, ce qui implique tout un tas d'enjeux, de contraintes et de, aussi de jeux qu'on se met à soi-même qui sont peut-être un peu différents de ce que ferait un comédien s'il avait dû raconter la même histoire. Je crois qu'il y a, il y a eu vraiment le souci de se dire mais comment est-ce qu'on raconte quelque chose en cirque, quoi, oui. Par le cirque.
Oui. Alors, l'enquête de Sébastien Le Guen, c'est ce vendredi, samedi et dimanche au Théâtre d'Eau. Alors, c'est annoncé complet, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur liste d'attente.
Hein. Oui, il reste toujours quelques places quand même. Je crois que c'est possible.
Et alors, en bonus, j'ai ouï dire que les spectateurs partiront avec un souvenir. C'est vrai ?
Ah oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous en dire plus.
Ah ben non, hein, il faut venir.
Il faut venir.
Sébastien, un grand, grand merci.
Merci beaucoup.
Et puis, on se voit bientôt pour l'enquête.
Merci.
Au revoir. Et oui, Scénorama spécial Printemps des comédiens, votre troisième émission ici au Domaine d'Eau, dans la Pinède, sous le chapiteau. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Alors, Maglone Vidal, vous êtes musicienne, saxophoniste, performeuse et conceptrice de spectacles vivants. C'est un plaisir de vous accueillir, d'autant plus pour présenter ce spectacle « La tentation des pieuvres ». Que j'attends depuis des années. Alors, il a été créé, si je ne me trompe, en 2017 à la Comédie de Reims, le Centre dramatique national. Depuis, il a bien, bien tourné, une vingtaine de dates en France et à Bruxelles. Il a reçu les éloges de la presse nationale. Dites-nous de quoi il s'agit, parce que je sens que mes auditeurs disent « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?»
Bonsoir Annick.
Bonsoir Maclan.
La tentation des pieuvres, c'est une création pour un chef cuisinier, quatre musiciennes et musiciens et 100 convives. En fait, il y a un titre que auquel je n'avais pas pensé, mais qu'on nous a donné... au fil de nos tournées, je crois que c'était à la Philharmonie de Paris, où ils ont appelé ça Odyssée gastrophonique. Et en fait, c'est ça l'idée. Donc, c'est que c'est la dramaturgie opératique et musicale d'un plat, qui est une bourride de petites sèches, et dont on suit la confection, en fait, du tout début de la cuisine au repos hein, à la fin du plat. Et confection qui se fait donc en révélant tous les sons liés aux opérations du cuisinier. En l'interprétant avec à la fois musicien électronique, violoncelliste, batteur. Percussionniste et moi au saxophone et objets matériels de cuisine.
Voilà. Oui. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, mais comment vous est venue cette idée ? C'est quand même une idée géniale.
Je sais pas, c'est génial.
Comment ça vous est venu ça ?
Ça m'est
Maglone,
venu.
Dites-nous tout.
Ça m'est venu parce que j'ai grandi dans un restaurant en fait. Mes grands-parents avaient un restaurant. Et qui était ouvert tous les jours, sans exception. Et donc, c'est un endroit où j'ai beaucoup passé de temps, où je me suis beaucoup ennuyée aussi, mais j'ai observé, j'ai regardé à quel point le service était un balai, finalement. Et puis, le balai aussi dans les cuisines, quoi, comment tout ça s'orchestre.
Il faut être super organisé aussi.
De façon assez fine et assez joyeuse aussi. Voilà, donc quand on est enfant, on peut se faufiler, on peut goûter des choses absolument magnifiques. Et voilà, et puis j'ai rencontré le cuisinier, là, qui est Claudius Tortorici, qui a une vraie présence sur scène et qui a passé sa vie donc à revisiter en tant que chef cuisinier la cuisine familiale méditerranéenne. Donc c'est aussi parce que je l'ai rencontré que j'ai pu mettre en œuvre cette idée que j'avais depuis des années et des années.
Ah, voilà, oui, ça vous trottait dans la tête depuis un bon moment, mais voilà, il fallait en fait cette rencontre pour qui a été l'élément déclencheur.
Tout à fait.
Mais alors, et lui, quand vous lui avez proposé, de suite, il a été partant, parce que c'est pas évident aussi pour un cuisinier de lui demander de faire partie d'un spectacle.
Ah oui, lui, il a été partant, ouais, avec beaucoup d'enthousiasme. Ben voilà, c'était un moment donné de sa vie professionnelle aussi où c'était possible. Il était un très jeune retraité. Et voilà, parce que c'est extrêmement compliqué quand on a une activité de restauration, de partir en tournée régulièrement, etc. Donc, et puis de participer à une création avec oui. tout ce que ça suppose, de oui. partir en résidence, etc. etc. Voilà.
Et donc, la recette, c'est son idée à lui ou c'est vous qui lui avez suggéré cette bourride ?
Alors, l'idée, c'était d'abord, moi, ce qui était important pour moi, c'est de travailler comme un plat populaire. C'était de lier ce qu'on appelle les nouvelles écritures du sonore avec un plat populaire. Parce que c'est finalement assez exceptionnel de nos jours d'être 100 personnes à déguster le même plat au même moment. C'est maintenant très rare,
oui,
ça.
C'est vrai.
Donc l'idée, c'était que ce soit un plat populaire, un plat qui soit à la fois universel et local. Et donc la pieuvre s'est dégustée vraiment dans le monde entier. Et il fait une bourride du Gros du Roi, en fait. Donc c'est quelque chose de très local, de très méditerranéen, et qui est à la fois dégusté partout. C'était un plat qui... On a beaucoup, beaucoup cherché, hein, évidemment, mais il fallait que dramaturgiquement, ce soit intéressant, et musicalement, et chorégraphiquement, j'allais dire. Donc voilà, ce plan-là, il recouvrait tout ça, et donc ça permet de... Ben, c'est une pièce qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup, parce que ça permet vraiment de relier tous les sens, quoi, et d'être dans une très grande proximité avec les spectatrices et les spectateurs.
Oui. Alors du coup, vous avez testé plein de recettes comme ça pour dire ouais, celle-là, ça va pas passer. Vous êtes payé des, enfin, faut faire ça des petits week-ends. Moi, j'imagine, vous avez un petit week-end où allez, on fait telle recette, on voit ce que ça peut donner.
Non, c'était vraiment lié. Bon, je connaissais l'univers culinaire de Claudius, bien sûr, mais c'était vraiment lié à la dramaturgie que cette recette pouvait me permettre de déployer dans la mise en scène. Donc, en fait, je me suis intéressée à plusieurs propositions de Claudius en détaillant très précisément tous ses gestes et tous les sons que ça pouvait mettre en œuvre pour choisir. Et puis aussi, symboliquement, l'idée de la pieuvre, c'était extrêmement intéressant parce que c'est un animal qui a été décrié pendant plusieurs siècles, et puis maintenant revient à odeur de sainteté, j'allais dire. Mais voilà, enfin, c'est cet animal très intelligent, avec ses 8 pattes là, qui vous emporte, et on espère que c'est ça, le spectacle vivant, ça doit vous emporter. Voilà, il y a quelque chose de très généreux et de tentaculaire aussi dans le désir, le plaisir que de cet appétit là, puisque en fait, donc pendant toute une partie du spectacle, on confectionne le plat donc en musique de façon opératique presque, et puis après on le déguste tous ensemble. Donc la pieuvre, elle est là, et puis elle est inscrite aussi dans la scénographie, mais il ne faut pas que je révèle tout.
Oui, oui. Alors, on va écouter un extrait.
Thank you.
extrait de La Tentation des pieuvres de Maglone Vidal à découvrir ce week-end à la Bulle Bleue, mais dans le cadre du Printemps des Comédiens. Alors Maglone, là, bon, voilà, on avait les sons, mais on ne voyait pas. On n'a pas encore des caméras qui nous filment en même temps que qu'on fait la radio. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui se passait là pendant ces extraits qu'on a entendus?
Ah, alors là, les extraits, c'est extraits d'un teaser, donc c'est
il y a plusieurs
choses.
C'est
de la musique empilée en fait. Voilà. Mais en fait, on fait sonner d'abord la cuisine au repos, donc les plaques à induction, etc. Ça révèle des sons assez étonnants. Hein.
On ne croirait pas, des plaques d'induction, ça fait pas, du bruit.
Et puis, il faudrait donner des droits d'auteur aux marques. De...
oh non, ça va, ils touchent assez de sous.
Non, mais voilà, on entendait quand même, on entendait à un moment donné donc, le son des plaques d'induction. À un moment donné, on entendait aussi le bruit du couteau qui découpe le poireau.
Ah oui, le fameux solo du voilà. Poireau.
On entend l'ébullition, on entend... bon. En tout cas, c'est des sons qui sont extrêmement, qu'il est extrêmement agréable de diffuser, de traiter, de poétiser, j'allais dire. Ça fait un peu, ouais, j'avais un peu peur de ce mot, mais voilà, l'idée c'est de créer un imaginaire sonore à partir de ces actions-là. Et puis il y a ces musiciens qui sont magnifiques.
C'est ça, vous êtes entouré de trois musiciens. Vous pouvez nous les présenter?
Oui, Didier Petit qui est violoncelliste, Vivienne Trelcat qui a pris le relais de Christian Zanesi qui était initialement le musicien électronique de la pièce, et donc il va vraiment retravailler, retraiter tous ces sons-là. Et puis le percussionniste batteur qui est Philippe Foch. Et puis je suis donc au saxophone, et puis je joue beaucoup avec les ustensiles aussi. Voilà, mais le chef d'orchestre de tout ça, c'est évidemment Claudius Tortorici, qui est le chef d'orchestre de la pièce. Voilà.
D'accord. Alors, bon, évidemment, c'est un spectacle qui est bien, bien rodé, mais est-ce qu'il arrive parfois que, ou lui, ou vous, fassiez un petit écart ou...
Ah, c'est difficile quand même, parce que c'est quand même une pièce qui est très écrite. Alors, il y a à l'intérieur de ça, bien sûr... on est toutes et toutes improvisateurs aussi, mais c'est quand même une pièce qui est très écrite et voilà, on utilise tout le plateau, le public est aussi sur le plateau, donc les choses sont quand même assez réglées, quoi.
Oui, voilà. Bah oui. Surtout vous connaissant. Alors, je ne sais pas si on va dire quelques mots sur la scéno, on va dire, en tout cas qu'on peut qualifier de futuriste. Peut-être que nous n'en dirons pas plus. C'est vous qui voyez, Maglone. En tout cas, elle est imaginée par la talentueuse Emmanuelle de Becher. Elle est vraiment super, cette scénographe.
Ah oui, cette scénographe est super, ouais. Et sa scénographie est super. Non, vraiment, c'est super. Mais c'est vraiment La Tentation des pieuvres. C'est une sorte de communion contemporaine, en fait, et une manifestation d'hospitalité au spectacle vivant. Et Emmanuelle a su faire que sa scéno incarne vraiment ça. Donc, j'en dis pas plus parce que c'est à découvrir, mais c'est vraiment, c'est vraiment un très bel objet scénographique qu'elle nous offre là, oui, tout à fait.
Et alors, le dispositif sonore est aussi très pointu.
En fait, c'est un dispositif qui permet que artistes et public soient baignent dans le même son. Donc c'est un dispositif octophonique. Mais voilà, qui permet d'avoir cette aire commune, ce lieu commun où on va fêter, on va fêter le spectacle vivant, quoi, et le fait de manger. Finalement, c'est de quoi on se nourrit, quoi. On se nourrit autant de cette cuisine-là que de la convivialité, que du fait d'être ensemble et que du spectacle vivant qui nous a quand même tant manqué, quoi. Voilà.
Oui, oui. Alors, chers auditeurs, vous l'avez compris, La Tentation des pieuvres, c'est vraiment un spectacle pas comme les autres, un moment éminemment convivial, une communion, on peut dire, entre les artistes, le public. Alors, c'est complet. Évidemment, c'est normal, depuis le temps qu'on l'attend.
Mais il faut venir.
J'en raccroche une couche.
Il faut venir. Ouais.
Voilà, il y a toujours des désistements ou des oublis, etc. Donc je précise que ça se passe à la Bulle Bleue. Ça sera dans où exactement,
Ça sera au Chez.
Au Chez, d'accord. Donc 4 représentations ce samedi et dimanche. Toutes les informations sur et la billetterie sur le site du Printemps des Comédiens. Et aussi, alors pour les auditeurs qui ne pourront pas venir, ils ont la possibilité d'aller vous voir à Montauban.
Tout à fait.
Hein, c'est le... Écoutez, en vacances, on a le temps, on peut très bien faire quelques kilomètres.
C'est 30 juin et 1er juillet, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est tout à
c'est
fait.
C'est vraiment nos dates en Occitanie. C'est un grand plaisir parce qu'on a beaucoup tourné, on a fait une quarantaine de dates dans le. Partout ailleurs, mais très peu en Occitanie. Donc voilà, c'est maintenant et c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à venir au dernier moment. Et oui. Souvent, il y a des places oui. qui se libèrent.
Oui, oui, il faut rester optimiste. Et puis sinon, bah, écoutez, allez voir la vidéo qui est donc sur votre site, Maglone Vidal. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, quoi. C'est génial. On va terminer avec un petit extrait. Et puis après, on se dira au revoir. La Tentation des pieuvres, une partition pour un cuisinier, 4 musiciens et 100 convives. Un grand merci, Maglone Vidal.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe. Eh bien, on ne dit pas un bain. À l'équipe du Printemps des Comédiens et à ma super équipe de Radio FM+. Donc, Stéphane, William et Arthur. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission 4, la dernière émission donc pour le Printemps des Comédiens et pour la saison. Hein, on se retrouvera à la rentrée mi-septembre, il me semble. Voilà. Eh bien, en attendant, passez un très bon week-end et de très bons spectacles. Bye bye.